Le conclave proposé par l'EMR en vue de former un gouvernement bruxellois débute ce matin même à 10h30, on vous le disait dans le journal, et on va en parler avec Pascal Delbit, il est politologue à l'ULB et il répond aux questions de Blaise van der Linden.
Pascal Delbit, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors hier, le président du MR, hier dimanche, Georges-Louis Boucher, a surpris un peu tout le monde. Il a déclaré sur X être en mesure d'initier un véritable processus de négociation autour de la formation du gouvernement bruxellois. Et puis on l'a appris ce midi, le PS et Groen ont accepté l'invitation de Georges-Louis Boucher. Anders, de son côté, pose ses conditions. On sent le président du MR assez optimiste. Est-ce que vous l'êtes aussi, Pascal Delbit?
Je pense qu'il faudrait beaucoup d'imagination pour être optimiste quant à la formation du gouvernement bruxellois, mais il y a quand même du mouvement. Déjà, parmi les 7 partis invités, il y a une attente du PS qui est rencontrée, c'est-à-dire que la NVA n'est pas invitée, et pour la première fois, Anders a imaginé pouvoir monter dans un gouvernement ou à tout le moins participer à une négociation sans la présence de la NVA. Ce sont deux changements importants. Après, il faut néanmoins rester prudent. On a eu beaucoup de tentatives depuis plus de 600 jours et beaucoup ont avorté. Donc à examiner et à voir quelles sont les conditions que chacun des protagonistes posera.
Vous l'avez rappelé, le PS avait posé cette condition qui était de ne pas entrer dans un gouvernement, de ne pas former de gouvernement avec la NVA. Anders, de son côté, voulait la NVA. Finalement, ils sont prêts à répondre à l'invitation sans la NVA, mais avec des conditions strictes. Comment est-ce qu'on explique ce retournement de situation?
Ouais, je pense qu'il y a bien sûr un élément de pression, c'est-à-dire que chaque jour qui passe et par séquence régulière, on souligne cette situation incroyable à la région de Bruxelles-Capitale. Ça a été souligné autour des 600 jours, ça a été souligné autour du discours du roi, ça a été souligné lorsque des groupes de citoyens ont organisé une manifestation, puis un débat. Donc, évidemment, chaque jour qui passe, accroît la pression sur la formation du gouvernement. Et par ailleurs, au niveau de l'Open VLD qui est devenu Anders, les choses ont un peu changé également. M. De Gucht est devenu président, alors il n'a pas changé directement de position en accédant à la présidence, mais d'une certaine manière, il y avait cette interrogation permanente qui était pourquoi un parti de l'opposition fédérale veut que le Premier ministre soit dans le gouvernement d'une entité fédérée. Et peut-être qu'à un moment, il a été sensible à cet argumentaire qui est posé, pas spécialement par des observateurs francophones, mais également par des observateurs néerlandophones. Donc peut-être qu'il y a un mouvement, et qui plus est, c'est un mouvement qui est initié par Georges-Louis Boucher, donc on peut imaginer qu'en amont, il y a quand même eu une conversation entre M. De Gucht et M. Boucher.
Justement, vous parlez de Georges-Louis Boucher. Dans certains sondages, on ne reconnaît pas forcément la fameuse vague bleue qu'on avait vue lors des dernières élections. Est-ce que ce serait un gros coup pour le président du MR?
Un gros coup, oui et non. C'est bien sûr, celui qui réussira à former le gouvernement, on retiendra son nom après une si longue période. Après, il ne faut pas l'oublier, dans une certaine mesure, il y a une logique à ce que le MR ait la main, depuis le départ, bien sûr, il y a une logique à ce que le MR ait la main, puisque c'est le premier parti. Alors, il n'y a pas d'effet mécanique, on a déjà connu des situations où le premier parti n'était pas dans la majorité bruxelloise, c'était le cas durant la législature 2009-2014, mais d'emblée, à peu près tous les partenaires, qu'ils soient francophones ou néerlandophones, considéraient qu'il y avait une logique à ce que le MR ait la main et à ce que la ministre-présidence lui revienne. Donc, dans une certaine mesure, on est dans un retour à cette logique. Le point est maintenant l'aboutissement, et pour lui évidemment, pour Georges-Louis Boucher tout court, pour le MR de manière plus spécifique. Après, comme vous le soulignez, des sondages pas très favorables en Wallonie et pas très favorables à Bruxelles, ça ne peut faire que du bien, mais il ne faut pas l'oublier, quand bien même, je ne sais pas, le gouvernement verrait le jour dans le mois qui vient ou dans les 2 mois qui viennent, Le prochain scrutin n'intervient jamais que dans plus de 3 ans, et 3 ans en politique, c'est une éternité.
La chef de file de Groen à Bruxelles, Elke van den Brandt, a également réagi. Elle a dit « Nous serons évidemment présents autour de la table avec les 6 autres partis. Groen propose cette formule depuis 1 an déjà. » Alors, est-ce que, bon, c'est peut-être une analyse facile, Pascal Delwitt, mais est-ce qu'on n'a pas perdu du temps pour des petites guerres de clochers?
Alors, bien sûr que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Après, il faut jamais l'oublier, et c'est ce que certains observateurs soulignaient au lendemain même du scrutin, hein, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut bien souligner que l'électorat s'est fragmenté, et la formation d'un gouvernement, c'est d'abord sur base de ce que font les électrices et les électeurs. Et les électrices et les électeurs ont été plutôt centrifuges que centripètes, et donc c'est clair que ça a rendu la formation du gouvernement plus compliquée. Deuxième élément, on est en région de Bruxelles-Capitale. La région de Bruxelles-Capitale a un cadre institutionnel complexe, aux yeux de nombreux observateurs dépassés par la réalité de ce qu'est aujourd'hui la région, mais vous devez néanmoins respecter le droit, bien évidemment, et le droit public, et donc tant qu'il ne sera pas changé, il faut respecter ce cadre complexe, c'est-à-dire la double majorité dans le rôle linguistique francophone et dans le rôle linguistique néerlandophone. Et puis trois, après, vous avez effectivement la dynamique politique, c'est-à-dire la dynamique des acteurs collectifs et des acteurs individuels. Avec cette observation, c'est qu'il y avait beaucoup de changements, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de changements dans celles et ceux qui négociaient. Beaucoup étaient des novices dans la négociation de la région, et beaucoup de changements aussi dans le fait que on a vu, ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant, la présence de présidents de parti plus importante qu'à l'accoutumée. Bien sûr, en particulier dans le chef du MR, hein, Georges Boucher s'est imposé comme le principal négociateur du MR, alors que jusqu'alors à Bruxelles, c'était, bien sûr, je ne dis pas que les présidents étaient absents du processus, mais c'était quand même plutôt les présidents de fédération qui menaient le processus. Donc ça a sans doute contribué à des difficultés, d'autant que il y a pu y avoir un conflit d'interprétation sur le résultat électoral. C'est-à-dire que, hein, autant en Wallonie, l'interprétation est assez simple, c'est-à-dire une très forte percée du MR, une très forte percée des engagés, et un échec du Parti socialiste et un échec d'Écolo. Voilà, vous ne trouverez pas beaucoup de politologues qui ne vont pas partir de cette quadruple observation assez simple. En revanche, à Bruxelles, on était dans un registre différent, c'est-à-dire que le MR s'est remis à un étiage, mais qui était un étiage de 2014. C'est surtout en 2019 que son résultat était très mauvais. Et par ailleurs, en région de Bruxelles-Capitale, on voit la gauche est majoritaire. Donc vous étiez dans une configuration qui n'était pas la même que celle de la Wallonie, et on a le sentiment qu'au MR, on n'a pas suffisamment observé cette configuration différente. Les engagés n'ont pas progressé comme en Wallonie, la gauche n'a pas régressé de la même manière qu'en Wallonie, donc c'est vrai que le cadre de la négociation n'était pas exactement le même.
Pour conclure, Pascal Delwitt, sur un autre sujet, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Le Premier ministre Bart De Wever a accordé une interview à la VRT ce dimanche. Il a fait les louanges du roi Philippe, qu'il a qualifié d'impressionnant, tout en maintenant que la Belgique fédérale était très difficile à gérer. C'est plutôt surprenant de le voir parler en bien du roi, non?
Alors oui, bien sûr, c'est surprenant pour un parti républicain. Si on se rappelle de la première rencontre entre Bart De Wever et le roi Philippe, c'était pas exactement la même tonalité. Ouais, je crois qu'il y a, et on l'observe d'ailleurs, hein, on l'a observé au jeu aussi, il y a une forme de double approche et donc de double discours de l'NVA. D'une part, elle rappelle à l'envi dans le chef de sa présidente ou dans le chef du ministre-président de la région flamande ou même de Yann Yambon que le parti reste le parti et vise au confédéralisme. Yann Yambon l'a rappelé assez durement d'ailleurs, ce qui était un peu étrange pour un ministre fédéral. Bardo Weaver d'une autre manière, mais en même temps, bon, c'est quand même le parti du Premier ministre, et en général, le Premier ministre plutôt valorise le chef de l'État que dévalorise le chef de l'État, et donc il y a aussi, je dirais, une adaptation au rôle dans lequel se trouve Bardo Weaver, au nouveau rôle dans lequel se trouve Bardo Weaver, c'est-à-dire celui du 16 rue de la Loi, du Premier ministre de la Belgique, et donc d'une forme de démonstration qu'il y a une relation de confiance avec le chef de l'État.
Pascal Deluit, je rappelle que vous êtes politologue à l'ULB. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir.